Des héros, moi j'arrête pas de dire qu'on n'est pas des héros. Moi, je préfère les sujets très graves. C'est peut-être par paresse, alors si je travaille autant que ça servait à quelque chose.
Est-ce que vous choisissez parfois, particulièrement, de faire des reportages sur les femmes en tant que femme grand reporter? C'est pour vous une chose qui est toujours derrière vos têtes? J'aimerais pouvoir donner la parole aux femmes parce qu'on ne la leur donne pas suffisamment. Et parler d'elles et raconter leur histoire ou l'actualité au travers d'elles et pas toujours au travers des hommes.
Mais alors, écoutez, pas du tout. Et puis en regardant mes reportages, les trois quarts se concernent les femmes. Alors je me dis que finalement, oui. Mais au départ, non. Au départ, j'ai l'intention de couvrir l'actualité exactement de la même manière que... qu'un homme, j'ai du mal à me mettre à sa place, mais j'ai l'impression de faire le tout venant. Et puis en fait, je suis toujours attirée par les femmes. J'ai toujours l'impression qu'en télévision, une femme, en général, elle contrôle moins ce qu'elle dit, elle est plus émouvante, elle a le cri du cœur la plupart du temps.
Vous avez été remis en cause là pendant le débat par rapport à la façon de traiter un certain sujet. Comment vous ressentez une remise en cause comme celle-ci?
Oh ben c'est ce type de discours j'ai déjà entendu très souvent. C'est un sujet complètement passionnel, on peut pas en discuter sereinement. C'est tout le problème de pouvoir obtenir ou pas des visas pour revenir dans un pays pour en reparler. Alors c'est sûr que sur l'Iran on peut pas tout dire. Alors, soit on choisit d'y aller une fois et de revenir en disant tout, et alors là, on n'a plus jamais de visa. Soit, c'est un choix que je respecte tout à fait, soit moi, j'ai essayé de comprendre ce pays et pas de le juger, c'est ce que je disais à cette dame.
Est-ce qu'il y a moyen de raconter la vérité quand on fait du reportage comme vous faites?
Non, je crois qu'il n'y a jamais moyen de raconter la vérité. Non, ce qui m'intéresse plus, c'est de provoquer les discussions, de donner aux gens d'en savoir plus. Parce qu'à la télévision, sur une minute, sur deux minutes, même sur 15 minutes, jamais on ne traitera à fond d'un problème. En revanche, si je peux éveiller la curiosité ou l'intérêt des gens, et puis qu'après ça, ils essaient de se documenter, ou que ça leur, qu'ils se posent des questions, qu'ils en parlent autour d'eux, ça, je serais ravie.
Mais il y a quand même moyen de choisir son camp, entre guillemets, dans le sens où, suivant si on donne la parole à telle ou telle personne dans les 1 minute 56 ou dans les 15 minutes, eh bien, on transmet plutôt telle information que telle autre. Est-ce que vous avez ça à l'esprit quand vous choisissez à qui vous allez donner la parole?
Oui, mais je pense que, en général, je fais attention. Mais par exemple, sur la Roumanie, on m'a dit « fais un magazine de 15 minutes ». Je ne savais pas sur quoi. J'ai appris que c'était les femmes qui avaient le plus souffert parce que les prisonniers politiques, les dissidents, il n'y en avait pas énormément. J'ai choisi, vous me disiez, est-ce que vous choisissez toujours les sujets les plus graves? J'ai pris le sujet le plus important pour la Roumanie. Après, comment le traiter? Après, on a 5 jours. Alors, vous savez, c'est souvent le hasard. Et on voit beaucoup de gens et on garde les plus émouvants, les plus... Est-ce qu'on a pris le plus représentatif? Peut-être pas, mais bon, la vie est variée. Hein.
Non, mais je pensais par exemple au dernier reportage qu'on a vu, qui était un vieux reportage, c'était 67, où sur le Vietnam, et où on donne à la fin du reportage la parole à un général français qui s'exprime sur les difficultés qu'ont eues les Français aussi au Vietnam. On peut se dire que c'est un choix très partisan de donner la parole à un général plutôt qu'à un soldat qui a vécu les mêmes événements et qui raconterait sûrement pas la même chose.
Dans les reportages même, on évite d'interviewer quelqu'un qui aurait une opinion trop tranchée sur un problème, ou alors on interviewe plusieurs personnes.
Est-ce qu'à force d'être confronté à tous ces événements, toute cette réalité, est-ce qu'effectivement on en ressort un peu transformé? Est-ce qu'il n'y a pas un jour où on dit « je ne peux plus voir ça, c'est plus possible, j'arrive plus »
Quand on est confronté à des événements très durs, moi j'ai toujours envie de contrebalancer les horreurs qu'on voit, en fait, des images de mort par des images de vie. Oui, plus qu'on voit est dur, plus on a envie que les gens qui sont restés vivants autour s'expriment.
Comme je vous le disais, j'avais envie de rencontrer d'autres femmes grands reporters en dehors des femmes françaises rencontrées à Créteil. Et c'est à la télévision suisse romande que j'ai retrouvé Mireille Calame, où elle est journaliste au News, aujourd'hui spécialiste des organisations internationales comme le HCR ou le CICR. Pendant longtemps, elle est allée sur le terrain, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Sud-Soudan, Philippines, Tchécoslovaquie et bien d'autres pays. Mais depuis qu'elle a un enfant, elle voyage un peu moins souvent. À la télévision suisse romande, les femmes sont-elles encore des pionnières du grand reportage ?
On n'est plus des pionnières. Il y a beaucoup de femmes journalistes. Ce n'est pas encore tout à fait 50%, mais il y en a beaucoup. Il y a même des femmes qui exercent des responsabilités. Moi, j'ai un chef qui est une femme et j'en suis très contente.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de faire du journalisme qui est propre aux femmes ? Est-ce qu'il y a une vision du monde de l'actualité qui est propre aux femmes ?
Je crois qu'il y a une façon d'être honnête qui n'est pas ni féminine ni masculine. Mais c'est vrai, il y a une part de soi dans le travail qu'on fait, et étant femme, il y a une part de vous en tant que femme qui peut passer dans les sujets que vous faites. L'important, une fois encore, c'est de savoir au fond si ce que vous racontez est une histoire gratuite ou si vous vous efforcez de raconter le monde dans lequel vous vivez.
Oui, mais très concrètement, par exemple, si vous faites des propositions de sujets, est-ce que vous constatez qu'il y a des différences entre les sujets que proposent vos collègues masculins ou ce que vous proposez ou vos collègues femmes ?
Je ne sais pas si c'est dans le choix des sujets, parce qu'au fond, on est tous des journalistes d'actualité. Peut-être dans la façon de le traiter, il y aura l'expérience de femme qui va revenir au moment où vous êtes sur le terrain, au moment où vous travaillez. Parce qu'on amène avec soi son expérience, ses propres questions, ses interrogations, et on essaye d'y répondre. Et bien sûr, dans les informations, dans les interrogations que j'emmène avec moi en voyage, il y a des informations et des interrogations qui concernent les femmes, puisque j'en suis une. Je me souviens par exemple qu'en Afghanistan, j'ai eu l'occasion, j'ai même cherché à voir des femmes afghanes pour savoir, au fond, cette guerre, ce qu'elle voulait dire pour elle, si c'était vraiment la guerre que racontaient les Moudjahidines, que racontaient les émissions de télévision que j'avais vues jusque-là. Bon, ça c'était assez difficile. Comme femme, j'avais un avantage. Je pouvais avoir plus facilement accès aux femmes. Alors j'ai commencé par acheter des petits trucs qu'elles brodaient, puis on a commencé à parler. Et puis tout à coup, je suis tombée sur une femme qui m'a raconté une histoire que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui avait une vraie part d'information.
Il vous est apparu important de parler de cela à l'antenne, de dire maintenant il faut que j'évoque ce problème-là, pas seulement les combats entre diverses factions de Moudjahidine.
Ah oui, c'est très important parce que les femmes, c'est la moitié de la guerre. Et celle-là, puisqu'on y a difficilement accès, on n'en parle pas. Les femmes, c'est toujours la moitié, même plus. Hein. Elles font un boulot fou pendant les guerres. C'est elles qui prennent souvent en main l'économie. J'ai vu ça au Sahara occidental aussi, également aux Philippines. Elles font un travail, elles font le travail de tous les jours. Elles sont seules avec des vieillards. Et elles font marcher la société. Elles continuent à élever leurs enfants. Elles continuent à faire la production. Et puis, souvent, elles se retrouvent à la fin de la guerre sans plus rien dans les mains. On a vu ça très souvent.
Mais il n'empêche que souvent dans les sujets d'actualité, on ne voit pas les femmes, on ne donne pas la parole aux femmes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu votre responsabilité comme femme grande reporter de leur donner la parole ?
Non, je ne crois pas que ce soit mon rôle de donner la parole à qui que ce soit. Mon rôle, c'est de chercher des informations. Mais c'est bien sûr, les femmes sont détentrices d'informations qu'on ne va peut-être pas chercher assez souvent. Et les femmes détiennent souvent des informations très intéressantes et auxquelles on n'a pas souvent accès parce qu'elles ne sont pas spectaculaires.
En l'occurrence, il vous semblait important de donner la parole à ces femmes dans le cadre du sujet que vous faisiez sur l'Afghanistan. C'était une partie importante de l'information à transmettre.
Tout à fait. Cette femme qui m'a raconté cette histoire, j'estime qu'elle était détentrice d'une information très intéressante. J'avais pas vu de papier jusque-là qui discutait de la question des femmes et au fond de l'effet de l'intervention soviétique et de la réaction et de ses effets sur la vie quotidienne de femmes qui sont après tout la moitié de la guerre d'Afghanistan, sinon davantage.
Est-ce que sur le terrain, vous ressentez le fait que vous êtes une femme? Est-ce qu'on vous traite différemment comme journaliste parce que vous êtes femme? Est-ce qu'on vous a refusé des interviews? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des entrées particulières parce que vous êtes une femme journaliste?
Oh, les deux peuvent arriver, mais je crois que c'est assez anecdotique. Je me souviens par exemple qu'en Afghanistan, j'ai eu beaucoup de peine à être reçue par Ekmatyar, qui est un des chefs fondamentalistes de la guérilla, et qu'il avait refusé de m'emmener voir les armes qu'il avait prise parce que j'étais une femme. We don't take females. On prend pas de femelles, m'avait-il dit. Tandis que, oui, puis quelquefois, c'est plutôt rigolo. Un autre Afghan avait accepté de me parler de ce personnage qui est vraiment un type assez fou, assez dangereux, très puissant. Et puis, j'étais très contente parce que personne ne voulait parler de ce type-là. Et on s'installe avec la caméra. À côté de la caméra, je m'assieds comme d'habitude, l'interprète un petit peu plus loin. Il répondait aux questions en regardant l'interprète. Alors, on interrompt, regardez la journaliste. On reprend, toujours regardez l'interprète. Alors, on se place de l'autre côté, pareil. Et à la fin, je me dis, mais faites un effort, s'il vous plaît, regardez-moi. Et alors, le type est tout à fait découragé et dit, non, mais je ne peux pas te faire cet affront. Alors là, bon, il n'y a rien à faire, il faut comprendre. Et on a simplement changé de place avec l'interprète et puis on trouve des petits moyens comme ça de surmonter ces difficultés.
Chiffre officiel, 3 millions de réfugiés afghans au Pakistan, dont la moitié sont presque totalement invisibles. Cherchez la femme, vous aurez peine à la trouver. Les réfugiés l'admettent. Autrefois, les Afghanes vivaient moins recluses, dans les villes et même dans les villages. Il y a eu l'invasion soviétique, contre l'invasion la guerre sainte, avec le retour de l'islam. Dans les camps aujourd'hui, les femmes ne quittent presque plus leurs murs. Question d'une occidentale, les femmes afghanes ont-elles perdu la guerre? Anissa a accepté de se dévoiler pour répondre. Ce que répondent les réfugiés. 6 mois de marche vers le Pakistan, 5 ans dans les camps. Au village, tous se connaissaient, alors on pouvait sortir. Ici, avec tous ces gens, on pourrait faire de mauvaises rencontres. Le mari d'Anissa ne dit rien, il est inquiet à cause des voisins, mais il a permis qu'elle parle. La liberté pour Anissa, c'est avant tout rentrer chez elle. « Je rentrerai en Afghanistan, dit-elle, quand les Russes seront partis, quand un gouvernement islamique aura été rétabli à Kaboul. » Elle parle des tanks et des bombardements qui l'ont chassée de son village, dans le nord de l'Afghanistan. Dehors près du puits, pas de femmes, toujours les mauvaises rencontres ou les mollahs qui l'ont interdit. Pour la corvée de l'eau, traditionnellement réservée aux femmes, on envoie désormais les garçons. Pour les réfugiés afghanes, tomber malade reste une des rares occasions de sortir, mais là encore, la règle de la séparation des sexes conduit à l'inégalité. Dans les camps, 95% des cadres médicaux sont des hommes. Impossible de les consulter.
J'ai pris plus de risques autrefois quand j'avais pas d'enfants et que maintenant je me sens responsable de ma vie pour quelques années encore, d'une façon un peu particulière, parce que je voudrais pas que ma fille soit privée de maman, simplement parce que j'ai eu envie de voir ce que c'était qu'un combat de trop près, je trouverais ça idiot.
Comment c'est possible de faire cohabiter le travail de journaliste, de grand reporter, qui voyage beaucoup, qui prend des risques, etc., et puis sa vie privée? C'est certainement un problème qui se pose différemment pour une femme grande reporter ou pour un homme grande reporter.
Ben, j'ai changé un peu de métier quand j'ai eu un enfant. J'étais grand reporter vraiment au sens plein du terme à l'époque. Et puis, j'ai dû m'arrêter de voyager puisqu'on ne peut pas s'occuper d'un tout petit enfant en voyageant de façon incessante. Donc, j'ai essayé de retrouver un travail intéressant en appliquant les méthodes que j'avais découvertes sur le terrain et en faisant de l'enquête sur place. Alors, je faisais de l'information générale. J'ai pu en faire à la radio, puis à la télévision. Et puis, petit à petit, j'ai recommencé à voyager un peu, modérément, parce que j'ai déjà un travail qui me prend énormément de temps. Donc, si 3 fois par mois, je pars en reportage, c'est vraiment plus la peine d'avoir un petit enfant. C'est-à-dire que l'enfant s'accrocherait à quelqu'un d'autre et je ne serais plus vraiment sa mère au sens plein du terme.
Mais est-ce que ce problème est le même pour un homme journaliste? Est-ce qu'il se pose les mêmes questions? Vous avez la sensation?
Moi, je connais peu de gens journalistes ou non, peu d'hommes journalistes ou non, qui se considèrent comme la personne responsable d'un enfant. J'en connais un, deux j'hésite, un j'en connais, oui. Tandis que les femmes qui ont des enfants, en général, se considèrent comme pleinement responsables. Ça veut dire, responsable, ça veut dire, par exemple, qu'il y ait du lait dans le frigo tous les jours.
Mais donc, c'est très difficilement conciliable, alors, de fait d'être grande reporter et d'avoir un enfant, dans la mesure où on a envie de s'en occuper et pas d'être toujours absent.
Je crois que c'est conciliable d'être journaliste, de faire du reportage et d'être mère. Je crois que c'est conciliable. Je crois que les moments où c'est vraiment difficile, où il y a un conflit précis, ouvert, ils sont très rares. En revanche, ça demande un exercice mental assez difficile, un petit peu. Comme quelqu'un qui aurait deux parents qui viennent de deux cultures totalement différentes, qui parlent deux langues différentes, qui ont des références différentes. Alors, si vous êtes l'enfant de deux parents comme ça, vous voyagez d'un côté à l'autre. Vous voyagez d'une valeur à l'autre. Vous voyagez d'une façon de voir le monde à l'autre. Et finalement, c'est une richesse. Mais c'est aussi un travail.
Est-ce qu'on vous a dit parfois tu partiras pas là parce que c'est trop dangereux, t'as un enfant? Est-ce qu'on prend des décisions à votre place quand on sait que vous avez un enfant?
Moi, je considère que mon enfant, c'est pas l'enfant de la télé, hein. C'est mon enfant à moi. Donc, je prendrais très mal qu'on me dise « Ah non, t'as un enfant, tu peux pas faire ça ». Ça m'est arrivé une fois. Une fois, il était question d'aller au Liban. Et puis, j'ai entendu prononcer la phrase en rédaction « Ah non, on va pas envoyer quelqu'un qui a un enfant ». Et j'ai senti monter une espèce de colère. Je me suis dit « Bon, c'est vrai ». On m'a laissé travailler, j'ai fait mon travail de journaliste, j'ai fait mon travail de maman et je l'ai pris sur moi. Alors maintenant que personne ne me dit ce que je dois faire. Les fois où vraiment j'ai senti que les images étaient trop dures, c'était à des moments assez curieux où j'avais un peu baissé les défenses. Je me souviens d'avoir préparé, par exemple, pour la revue de l'année, un visionnement. J'avais vu beaucoup d'images d'horreur. C'était l'année de Bhopal, de Mexico. Et puis, en regardant ça, avec un œil très professionnel, on se défend un petit peu. Tout à coup, j'ai rembobiné et je me suis dit, bon, j'avais fini mon travail. J'ai vu défiler ces images à toute vitesse. Et je me suis sentie mal parce que j'avais plus un œil professionnel. Bon, c'est vrai, ça nous arrive d'être agressé par des images très fortes, par des images très très violentes. Mais finalement, ce qui nous sauve, c'est le fait que notre métier est très strict et très codifié. Par exemple, il y a une règle absolue dans le cadre du téléjournal, c'est qu'on ne passe des images de violence, des images dures, que si elles sont porteuses d'une vraie information. On ne travaille pas du tout au hasard. Et au fond, c'est ça qui permet de surmonter quelquefois la violence des choses qu'on voit. Mais je crois que tant que l'envie de savoir n'est pas atteinte, on peut continuer.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous suivons le travail des femmes grandes reporters. Béatrice Barton est aussi journaliste à la télévision suisse romande. Elle a aussi voyagé un peu partout dans le monde. Elle a travaillé pendant 8 ans pour les news et collabore actuellement à différents magazines d'actualité comme Temps Présent. Si elle pense que les femmes journalistes ont peut-être un autre regard sur l'actualité, une autre sensibilité, elle rejette cependant la façon de faire de certains producteurs qui voudraient confier la réalisation de sujets aux femmes parce que ce sont des sujets sensibles.
Les producteurs souvent disent « bon, on va faire une équipe de femmes parce qu'elles auront un autre regard sur tel ou tel problème ». Et je me rappelle très bien que quand on a fait un sujet sur l'Allemagne de l'Est avec une famille qu'on a suivie, qui avait quitté l'Allemagne de l'Est puis qui est partie par la Hongrie, ils voulaient une équipe de femmes parce qu'ils disaient que bon, c'était un sujet sensible et tout, et que peut-être il valait mieux que ce soit traité par les femmes. Mais moi, je rejette un peu ce genre de classification, et je pense qu'on peut faire toutes sortes de sujets. C'est vrai qu'on doit avoir un regard tout à fait différent, mais moi, ça passe par mon instinct, et je ne sais pas si j'ai une sensibilité différente de celle d'un homme ou pas. J'ai pas vraiment ce sentiment là. Je sais pas, j'y vais à l'instinct. Moi, je propose toujours des sujets qui m'intéressent particulièrement. Et c'est des sujets d'actualité, j'aime bien la politique. C'est donc pas un sujet peut-être typiquement féminin comme on peut l'entendre comme ça. J'aime beaucoup les sujets politiques, mais qui sont traités d'une manière un peu différente, qui sont traités à travers les gens, les acteurs, et non pas à travers des gens qui parlent pour les acteurs. Alors peut-être que ça, c'est une conception féminine, j'en sais rien, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses, j'ai envie d'aller vers les gens, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai envie de voir à travers eux les modifications dans la, je sais pas, politique qui se passe dans un pays, ou les grandes crises, etc., mais à travers les acteurs eux-mêmes. Alors ça, si c'est une conception féminine, j'en sais rien, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Vous, c'est un choix que vous avez fait, de travailler plutôt pour une émission qui creuse certains sujets comme Temps Présent plutôt que de travailler aux news?
Vous savez, moi, j'ai travaillé aux news pendant 8 ans. Alors, je connais bien le news, je sais bien quels sont ses avantages et puis aussi quels sont ses inconvénients. Et c'est vrai qu'au bout de 8 ans, on a envie de creuser un peu davantage les sujets et de laisser parler les gens. Et je veux dire, c'est un travail totalement différent. Je crois qu'on peut faire comprendre aux gens de façon assez approfondie une situation ou une autre. Et tandis que dans les news, bon, c'est des espèces de clins d'œil, comme ça il faut comprendre, en regardant beaucoup justement. Mais ce n'est pas en un sujet qu'on peut comprendre une situation, c'est vraiment juste un petit clip comme ça.
Dans vos sujets par exemple, vous avez l'impression que vous choisissez de façon très consciente à qui vous donnez la parole. Je donne plutôt la parole, comme vous disiez, aux gens plutôt qu'à un président ou un général.
Ah ça, de toute façon, ça je le fais relativement systématiquement, donc c'est possible. Je veux dire, quand je travaillais au journal télévisé, c'est vrai qu'il y avait des interviews de ministres ou d'hommes importants à faire, ça c'est évident. Mais si je pars en reportage et que je me rends compte d'une situation donnée, je m'adresse aux acteurs, je ne m'adresse pas aux gens qui parlent pour eux ou à leurs représentants, et tout le moins possible. Maintenant, de toute façon, il y a un choix qui se fait parce que je m'adresse à certains acteurs et pas à d'autres, ou je rencontre beaucoup de gens et puis j'en choisis quelques-uns parmi ceux-là. Et là, de nouveau, c'est une question d'impression propre, je veux dire, c'est mes propres impressions. Je me dis, tiens, celui-là, il rentrerait mieux dans ce sujet qu'un tel. Et puis, c'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça que je le vois moi-même. Alors, forcément, c'est un peu partisan, hein. Ça, c'est évident. J'ai plus de sympathie pour certaines personnes, j'ai des antipathies pour d'autres, ça va se sentir dans le sujet. J'essaye de pas le faire, mais je veux dire...
Vous dites, je devrais peut-être pas le faire, mais peut-être que oui.
Mais c'est impossible de pas le faire. Je veux dire, c'est un leurre de se dire un journaliste doit être impartial. Je veux dire, il ne peut pas l'être. Bien sûr qu'il doit s'efforcer d'être au plus près de l'impartialité. Mais enfin, ça, c'est... Moi, par exemple, là, je viens d'aller en Pologne faire un reportage sur les débuts du capitalisme en Pologne. Il y a toute une série d'hommes d'affaires là qui sont en train de s'enrichir, finalement, pas vraiment sur le dos des gens, mais quand même sur le dos d'une situation, disons. Il y en a qui s'appauvrissent, il y en a d'autres qui s'enrichissent, c'est très très net. Moi, quand je vois ça, je suis plutôt du côté des plus pauvres. Et puis, j'ai tendance à faire passer dans mon reportage le fait que, c'est peut-être pas très bien de s'enrichir sur le dos des autres, quoi. Ça, je peux pas m'empêcher de le faire. Mais parce que j'ai une certaine tendance à prendre le parti des plus faibles.
Parmi les acteurs que vous aimez interviewer, il se trouve qu'il y a les femmes, et les femmes à qui on demande rarement en quoi elles sont actives.
Oh, moi, j'essaie toujours de donner la parole aux femmes aussi, bien sûr. J'essaie, dans tous mes sujets, il y a des femmes, presque toujours. À moins que, je ne sais pas, moi, dans les pays arabes, on peut parfois même pas les approcher, je veux dire, si on a un caméraman. Mais disons, sinon, s'il faut rendre compte d'une situation, j'essaie toujours de donner la parole aux femmes.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que leur avis est important. C'est vrai qu'on ne leur demande pas souvent. Je ne suis pas une militante féministe, mais j'essaie simplement de faire les... D'abord parce que je m'entends bien avec elles, ça c'est vrai. Et puis, elles ont un tas de choses à dire. Dans la plupart des pays dans lesquels on va, elles ont un point de vue qui est totalement différent de celui des hommes. D'ailleurs, elles essaient moins de se faire valoir et d'essayer de paraître mieux qu'elles ne sont. Elles sont très, très naturelles. La plupart du temps, elles sont extrêmement... elles expliquent extrêmement bien leurs soucis quotidiens et des choses que j'ai envie de faire passer.
Que penses-tu de ceux qui restent en RDA et qui se battent là-bas? J'espère de tout cœur qu'ils vont y arriver, que ça va s'améliorer là-bas. Et s'il y avait des réformes, si cela changeait, y retourneriez-vous?
En ce moment, je ne peux pas me l'imaginer. Cela dépend de ce qui changera. En principe, je dirais que tout doit changer en RDA. L'économie ou...
Les salaires, le prix des biens de consommation, le rapport entre les prix et les salaires, c'est déterminant.
Mais surtout politiquement. La RDA doit changer radicalement. Il faut la liberté de voyager pour tout le monde. Des élections libres, la liberté de penser.
Et si tout cela change, si cela devient comme la Hongrie, par exemple?
Si tout cela change, alors je peux imaginer qu'un jour la frontière qui sépare les deux Allemagnes tombera.
Il est une chose qui semble importante quand même aussi dans la façon de travailler en tant que grand reporter, c'est les limites qu'à un moment donné on est amené à se poser dans la façon de réunir l'information. Limites qui peuvent avoir trait au danger à courir ou bien les limites d'un certain voyeurisme peut-être dans la façon ou quelle information ramener. Tout ça, bien sûr, influencé par le fait que vous êtes censé ramener une information qui est différente de celle des autres. Vous, comment est-ce que vous faites ce choix des limites ?
Moi, chez moi, c'est instinctif. Ça passe à travers mon propre filtre et il y a des choses que je ne ferai pas. Et je ne peux pas vraiment vous donner de règles parce qu'il faut se trouver dans la situation dans laquelle, justement, il y a un choix à faire. Mais si on veut prendre des exemples... jamais j'aurais été faire un reportage sur cette petite fille d'Armero qui s'est retrouvée dans son trou avec toutes les caméras autour d'elle et qui est morte comme ça devant les caméras. Ça, c'est insupportable, c'est évident. Tout ce qui touche d'ailleurs à des enfants, donc, vous allez me dire de nouveau que c'est parce que je suis une femme, mais tout ce qui touche à des enfants, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de mal à supporter les enfants qui souffrent et tout ça. Peut-être que je ferai quand même un reportage une fois sur une question comme ça, mais j'essaierai de le faire avec le plus de pudeur possible, et en tout cas pas de voyeur. Du tout.
Prenons des expériences. Peut-être vous êtes confronté à ces situations-là, à vous dire est-ce que vraiment je vais utiliser telle image, telle autre? Est-ce que vraiment c'est là que je vais aller chercher mon information? Ou halte là, je ne peux pas aller plus loin, je suis en train de risquer ma vie. Est-ce que vraiment c'est utile pour amener de l'info?
Si on s'ouvre devant une situation où il y a des gens qui sont impliqués, c'est-à-dire une population, des gens auxquels il est arrivé quelque chose de dramatique et tout. Souvent on filme parce qu'on est là et puis on essaye de rester le plus pudique possible et d'essayer de déranger le moins possible. Et en tout cas moi, j'essaye jamais de poser des questions agressives. J'essaye plutôt d'avoir un micro et une caméra discrète qui filme une scène. Et puis à ce moment-là, généralement ça passe. Je sais,